Europe 1, Julien Pierce.
Les États-Unis ont acheté la quasi-intégralité du stock mondial de Remdesivir. C'est le premier médicament préconisé par l'Agence européenne des médicaments dans la lutte contre le Covid-19. Pour en parler, Julien, votre invité, Patrick Bichler, qui est expert de l'industrie pharmaceutique au cabinet conseil Roland Berger.
Bonjour Patrick Bichler.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Avant de commencer, je précise que d'après une étude de l'Agence européenne des médicaments, les patients atteints du Covid-19 traités avec ce Remdesivir se rétablissent en moyenne 4 jours plus vite que les autres malades. Voilà qui explique peut-être pourquoi le gouvernement américain vient d'acheter la quasi-totalité de la production de ce médicament pour les 3 prochains mois. Patrick Bichler, faut-il s'inquiéter de cette pénurie annoncée alors que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'une deuxième vague ?
Écoutez, je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Je pense qu'on a surtout là une démarche assez symbolique, comme il y en a eu quelques-unes de la part du président Trump. Et donc on a une espèce de brutalité à laquelle on est tous exposés du « America first ». Maintenant, penser que ça puisse d'abord se mettre en place et ensuite perdurer me semble assez questionnable.
Pourquoi est-ce que les Américains mettent ainsi la main sur tout le stock mondial de Remdesivir ? Ils ont des informations que l'on n'a pas sur l'efficacité de ce traitement ou c'est un achat panique vu la progression actuelle du virus aux États-Unis, 100 000 nouveaux cas par jour ?
Ça ressemble davantage à un cas de panique et la violence de cette action, de cette confiscation finalement des 3 prochains mois quasiment de stock est à mettre en regard, comme vous le dites, des 127 000 décès qu'a eu le pays à date, des 2,6 millions de cas confirmés, et donc des 100 000 nouveaux cas par jour potentiellement, si la propagation du virus n'est pas mieux freinée par le pays. C'est surtout un traitement qui aide les patients à se rétablir plus vite, et surtout les patients les plus sévères. Donc ça n'est pas un vaccin, ça n'est pas un traitement qui va éliminer la maladie. Il permet juste d'en limiter les effets les plus fatals.
Alors il y a eu l'épisode Sanofi dont on se souvient, le PDG du groupe pharmaceutique français avait déclaré que les premières doses d'un éventuel futur vaccin iraient aux États-Unis avant de se rétracter face au tollé. Là, les Américains privent le reste du monde d'un des rares traitements efficaces contre le Covid. C'est chacun pour soi, en fait. C'est la loi de la jungle.
Comme je vous le disais, je ne suis pas sûr que ce soit tenable comme posture. Il y avait eu également le cas des respirateurs de la société 3M, dont le président Trump voulait priver le Canada. Et à l'époque, Trudeau avait expliqué que c'était d'un point de vue aussi bien diplomatique que sur le plan de la collaboration entre pays, quelque chose de très idiot que de confisquer des stocks de respirateurs. Donc oui, le vaccin de Sanofi, c'était une autre maladresse, mais qui était, je pense, davantage liée à l'administration américaine que réellement à la société Sanofi. Donc ça dénote surtout le style du président Trump. Donc ça ne va pas tellement plus loin. Et je ne suis pas sûr que, aussi bien industriellement que juridiquement, que diplomatiquement, cette posture soit très tenable.
Mais il faut faire quoi pour éviter cette guerre des médicaments qui laisse présager une lutte sans merci si un vaccin venait à être découvert ? Il faut faire quoi ? Il faut mettre en place une charte de bonne conduite ?
Au-delà d'une charte de bonne conduite, je pense surtout qu'il faut être raisonnable et prendre le temps de réfléchir. S'agissant du Remdesivir, il avait été dit par le laboratoire dès le départ qu'ils allaient proposer à des laboratoires de génériques de pouvoir produire des doses additionnelles et notamment de réduire le prix pour les pays les moins riches. Donc on peut très bien penser que sur la même logique, que ce soit pour des vaccins ou que ce soit pour le traitement de Gilead, se mettre d'accord sur quels sont les sites de production, réfléchir à la quantité de patients qui doivent bénéficier de tel ou tel traitement est la première des actions à prendre. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que la pénurie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est liée essentiellement au fait que les États-Unis pensent pouvoir confisquer du stock et on fait l'hypothèse que seul Gilead pourra produire ces doses, en tout cas dans les toutes prochaines semaines, évidemment.
Ce n'est pas la première fois depuis le début de cette crise que l'on entend ce nom, Gilead, c'est ce laboratoire pharmaceutique américain. Le professeur Didier Raoult, grand promoteur, on le sait, de l'hydroxychloroquine, a récemment mis en cause l'indépendance du conseil scientifique. Il accuse des membres de ce conseil d'avoir des liens avec les laboratoires Gilead qui fabriquent donc le Remdesivir. Il a une telle influence, ce groupe pharmaceutique américain ?
Je pense qu'on est sur deux sujets assez différents, c'est-à-dire l'interprétation que peut faire le professeur Raoult de l'avis d'un certain nombre d'experts et la place qu'occupe Gilead sur le marché pharmaceutique. Gilead fait partie du top 15 mondial des laboratoires pharmaceutiques, donc c'est un laboratoire qui a démontré, j'allais dire, sa place sur la scène de l'industrie pharmaceutique. Donc je n'opposerai pas forcément, ou je ne relierai pas plus précisément le fait que des experts aient travaillé pour un laboratoire comme ils travaillent pour la plupart des laboratoires du top 15 ou top 20 mondial, au fait que l'on soit perplexe sur les bénéfices de l'hydroxychloroquine versus les effets secondaires. De la même manière, d'ailleurs, par rebond sur votre question, Trump avait dit qu'il avait acheté des quantités considérables, massives, avait-il dit, d'hydroxychloroquine et que lui-même se traitait avec ce produit. Je pense que, à nouveau, il ne faut pas opposer les traitements. Il y a différentes solutions thérapeutiques pour retarder ou amenuiser la maladie. Il y a d'autres solutions comme les vaccins qui l'élimineront. Maintenant, je pense que la question des experts est une question qui finalement n'a plus grand-chose à voir avec cette actualité.
Alors justement, cet éventuel futur vaccin, quelles sont les dernières informations dont vous disposez à ce sujet? Est-ce qu'il y a un pays, un laboratoire qui semble en avance sur les autres?
Comme vous le savez, il y a à peu près une centaine d'essais cliniques qui sont en cours. On avait évoqué Sanofi et son accord avec Glaxo. AstraZeneca est également très avancé dans cette course pour le vaccin. Pfizer semble être aussi plutôt pas mal engagé. Moderna, sur une autre technologie plutôt de vaccin génétique, semble bien avancé, mais être plutôt limité par des capacités donc de production et de fourniture du vaccin. Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une petite dizaine de laboratoires qui semblent tenir la corde, mais ils sont encore au milieu du chemin. Donc, on peut se réjouir qu'il y ait plusieurs technologies et plusieurs laboratoires, parce qu'il n'y aura pas qu'un seul traitement, je pense, qui sera efficace pour les patients. Et même, il en faudra plusieurs pour couvrir toutes les typologies de patients, du plus fragile au plus costaud. Difficile de dire s'il y a vraiment un seul nom qui va émerger de ce coton.
Merci infiniment, Patrick Bichler, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. On vous rappellera, bien évidemment, qu'il y aura des avancées sur cet éventuel vaccin. Je rappelle que vous êtes expert de l'industrie pharmaceutique au cabinet conseil Roland Berger. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Bonne journée, Julien. Europe 1.